hussard mélancolique de la Légion germanique. Thomas Hardy. Partie 2 sur 2. Quand elle le revit, il était dépouillé des galons qui avaient orné sa manche. Son retard de cette fameuse nuit lui avait valu d'être cassé au rang de simple soldat. Se tenant pour responsable de son déshonneur, Phyllis en eut bien du chagrin. Mais la situation était désormais renversée. C'était à son tour, à lui, de la réconforter. « Ne te désole pas, mein Liebliche, » dit-il. « Quoi qu'il arrive, j'ai un remède. D'abord, en admettant même que je regagne mes galons, obtiendrais-tu l'autorisation paternelle d'épouser un sous-officier des hussards d'York ?» Elle s'empourpra. Elle n'avait pas envisagé d'effectuer une avancée si concrète avec une personne si peu réelle à ses yeux. Une seconde de réflexion suffit. « Mon père ne l'accorderait pas, certainement pas, » répondit-elle sans sourcil. « C'est impensable. Mon cher ami, je vous en prie, oubliez-moi de grâce. » « Je suis en train de vous détruire et de gâcher votre avenir, j'en ai bien peur. »« Pas du tout, » dit-il. « Grâce à toi, ton cher pays revêt à mes yeux juste assez d'intérêt pour que je tienne à y demeurer en vie. Si en plus de toi se trouvait ici ma terre chérie et ma vieille mère, cela suffirait à mon bonheur et je m'acquitterais de mon mieux de ma charge de soldat. Mais il n'en va pas ainsi. À présent, écoute, je te livre mon plan. » Tu viens avec moi dans mon pays pour y être ma femme et pour y demeurer avec ma mère et moi. Je ne suis pas un ouvrier, comme tu sais, bien qu'on m'ait enrôlé comme tel. Mon pays est proche de la Sarre, il est en paix avec la France. Et si je pouvais y retourner, je serais libre. Mais comment y arriver ? Demanda-t-elle. Phyllis avait été plus stupéfaite que choquée par sa proposition. Sa situation dans la maison de son père devenait ingrate et pénible à l'excès. L'affection paternelle paraissait tarie. À la différence de toutes les joyeuses filles autour d'elle, elle n'était pas originaire du village et d'une certaine façon, elle avait subi la contagion du désir ardent et passionné qu'avait Mataos Tina de retrouver son pays, sa mère et son foyer. Mais comment ? Répéta-t-elle, voyant qu'il ne répondait pas. « Tu achèteras ta libération ?»« Ah non, » dit-il, « c'est impossible par les temps qui courent. Non, je suis venu ici contre ma volonté. Pourquoi ne prendrais-je pas la fuite ? C'est le moment ou jamais, car nous allons bientôt lever le camp et je risque de ne plus te revoir. Mon plan est le suivant. » Je te demanderai de venir me retrouver sur la grande route à 2000 d'ici par une nuit paisible de la semaine prochaine où le rendez-vous sera possible. Il n'y aura rien d'inconvenant, rien dont tu puisses rougir. Tu ne t'enfuiras pas seul avec moi car je serai accompagné de mon jeune ami dévoué, Christophe, un Alsacien, fraîche recrue du régiment, qui a consenti à me seconder dans cette entreprise. Nous aurons, au préalable, fait un tour dans le port où, après inspection des bateaux, nous en aurons trouvé un qui fasse notre affaire. Christophe possède déjà une carte marine de la Manche. Nous filerons au port à minuit, nous couperons les amarres, nous nous éloignerons à l'aviron et nous disparaîtrons à la vue une fois qu'on tournait le promontoire. Le lendemain matin, nous serons sur la côte de France, près de Cherbourg. Le reste est facile, car j'ai économisé de l'argent pour le voyage terrestre et nous pourrons nous procurer des vêtements de rechange. J'écrirai à ma mère, qui viendra à notre rencontre. » En réponse à ces questions, il ajouta des détails qui, dans l'esprit de Phyllis, balayèrent les derniers doutes. L'entreprise était réalisable, belle et bien. Mais son ampleur la glaça d'effroi. Eût-elle été plus avant dans cette extravagante aventure si, en mettant le pied dans la maison ce soir-là, son père ne l'avait abordé dans les termes les moins ambigus. Rien n'est moins sûr. « Alors, les hussards d'York ? » dit-il. Ils sont toujours au camp, mais ils s'en vont bientôt, je crois. Inutile d'essayer de masquer de la sorte tes agissements. Tu as rencontré un de ces gars-là, on t'a vu marcher avec lui, tous tes barbares étrangers. Pas grand-chose à envier aux Français eux-mêmes. J'ai pris une décision. Pas un mot avant que j'ai fini, s'il te plaît. J'ai décidé que tu ne resterais pas une minute de plus tant qu'ils sont par ici. Tu partiras chez ta tante. En vain se récria-t-elle qu'à part avec son père, jamais elle n'avait fait trois pas de promenade avec quiconque au monde, civil ou militaire. Ses protestations manquaient de force. Car l'affirmation paternelle, inexacte à la lettre, n'était de fait qu'à demi erronée. Aux yeux de Phyllis, la maison de la sœur de son père était une prison, dont elle connaissait la tristesse pour en avoir récemment subi l'épreuve. Et sur l'injonction de son père d'emballer ce qui lui serait nécessaire, son cœur se serra. Dans la suite, elle ne chercha jamais d'excuses à sa conduite au cours de cette semaine d'agitation. Mais à l'issue d'un débat intérieur, elle avait décidé d'adhérer au plan de son amoureux et de son ami et de fuir vers le pays qu'elle imaginait, grâce à lui, sous de si séduisantes teintes. Elle ne cessa de déclarer au fil des ans que ce qui avait balayé ses intentions avait été l'évidente pureté et droiture de ses intentions. Il faisait preuve de tant de vertu et de prévenance. Il la traitait avec un respect dont elle avait si peu eu l'habitude jusqu'alors, et la confiance qu'elle mettait en lui la trouvait prête à affronter les risques évidents de la traversée. Chapitre 4. Ce fut par une douce soirée ténébreuse de la semaine suivante qu'ils se lancèrent dans l'aventure. Tina devait la retrouver sur la grande route à l'embranchement du chemin du village. Christophe devait les devancer au port où se trouvait l'embarcation, la conduire à l'aviron de l'autre côté du promontoire de Notte, ou comme on l'appelait alors la Vigie, qu'il devait atteindre en traversant à pied la passerelle du port et en escaladant la colline de la Vigie. Dès que son père fut monté dans sa chambre, elle quitta la maison et, son baluchon à la main, partit à vive allure sur le chemin. À pareille heure, il n'y avait pas un chat dans tout le village et c'est, sans être vue, qu'elle arriva à l'intersection du chemin et de la grande route. Une fois là, elle se plaça dans l'ombre d'une palissade où, à l'abri des regards, elle pourrait distinguer quiconque approcherait sur la route à péage. Il n'y avait guère plus d'une minute qu'elle s'était postée ainsi dans l'attente de son amoureux. La tension de ses nerfs, cependant, avait rendu cet instant fort pénible en dépit de sa brièveté, quand, au lieu des bruits de pas attendus, voilà que se fit entendre la diligence dévalant la colline. Sachant que Tina ne se montrerait pas avant que la route fût libre, elle attendit avec impatience le passage du véhicule. À l'approche de l'angle où elle se trouvait, il diminua de vitesse et, au lieu de passer son chemin comme à l'accoutumée, il s'arrêta à quelques mètres d'elle à peine. Un voyageur descendit, dont elle entendit la voix. C'était celle d'Humphrey Gould. Il était accompagné d'un ami et avait un bagage. Une fois ce dernier déposé sur l'herbe, la diligence poursuivit sa route vers la station balnéaire royale. Je me demande où il est, le jeune homme avec cheval et cabriolet, dit à son compagnon l'ancien soupirant de Phyllis. J'espère que nous n'allons pas devoir attendre longtemps ici. Je lui avais dit 9h30, précise. Le cadeau est en sûreté ?
Celui de Phyllis ?
Oh oui, il est dans cette malle, j'espère qu'il lui plaira. Mais bien entendu, quelle femme ne serait charmée par un si splendide cadeau de réconciliation ? Eh bien, elle le mérite. Je ne l'ai pas très bien traité, mais ces deux jours, j'en ai eu l'esprit occupé plus qu'il ne me plairait de l'avouer au monde entier. Allons, je n'en dirai pas plus. Il n'est pas possible qu'elle soit aussi scélérate qu'on la dépeint. Pour moi, il ne fait pas doute qu'une fille de son intelligence n'aurait pas la niaiserie de se fourrer dans une affaire avec un de ses soldats hanovriens. Je me refuse à le croire dans son cas, et voilà tout. Et ainsi de suite, dans la même veine, tout au long de l'attente des deux hommes. À la faveur de ses propos, elle eut la révélation, comme par une soudaine illumination, de l'énormité de sa conduite. À la fin, l'arrivée du cabriolet coupa court à la conversation. On fit monter les bagages, les deux compères prirent place et la voiture repartit dans la direction d'où elle venait d'arriver. La première impulsion de Phyllis, si vigoureusement ramenée à la conscience, fut de les suivre. Mais à y réfléchir une seconde, elle se sentit tenue par la plus élémentaire justice d'attendre l'arrivée de Mataos afin de lui expliquer de bonne foi qu'elle avait changé d'avis. Pour rude que promettait d'être le combat lorsqu'elle se trouverait confrontée à lui. Elle se reprocha amèrement d'avoir ajouté foi aux rumeurs qui donnaient Humphrey Gould pour traître à sa promesse quand, à en croire les paroles qui venaient de tomber de ses lèvres, sa confiance en elle n'avait jamais été entamée. Cela étant, elle savait très bien qui avait gagné son amour. Sans lui, sa vie prenait des couleurs sinistres, et pourtant, plus elle considérait sa proposition, plus elle avait peur de l'accepter. Tant elle était écervelée, floue, hasardeuse. Elle s'était promise à Humphrey Gould, et si elle en était venue à piétiner cette promesse, c'était uniquement en raison de son infidélité présumée. La sollicitude qu'il manifestait en lui, apportant des présents, la touchait. Elle allait devoir rester fidèle à sa promesse, à l'amour. Il allait falloir substituer l'estime. Sa dignité demeurerait indemne, elle resterait ici, elle l'épouserait, elle souffrirait. Phyllis avait ainsi mobilisé tout son courage pour s'assurer une force d'âme exceptionnelle quand elle apparut quelques minutes plus tard la silhouette de Mataos Tina derrière la barrière d'un champ. Il la franchit d'un bond léger tandis que Phyllis avançait. Impossible de se dérober à son étreinte. Il la serra sur sa poitrine. « Pour la première et la dernière fois », pensa-t-elle éperdument, nichée dans le cercle de ses bras. Comment elle sortit indemne du terrible supplice de cette nuit-là, Phyllis ne parvint jamais à s'en souvenir clairement. Elle attribua toujours le fait d'avoir réussi à tenir sa résolution au sens de l'honneur de son amoureux, dès l'instant où, toute balbutiante, elle lui déclara qu'elle avait changé d'avis et ne se sentait ni la force ni l'audace de s'enfuir avec lui, il s'abstint de toute incitation, malgré le chagrin que lui causait sa décision. Eut-il, bousculant ses scrupules quelque peu insistés, il eut, à n'en pas douter, fait pencher la balance en sa faveur, sachant à quel point elle était éprise, mais il n'en fit rien pour la tenter indûment ou à la déloyale. De son côté, inquiète pour sa sécurité, elle le supplia de rester. « Impossible, déclara-t-il. Je ne puis manquer de parole à mon ami. » Eût-il été seul en cause, il aurait renoncé à son plan, mais Christophe attendait sur le rivage avec l'embarcation, la boussole, la carte. La marée n'allait pas tarder à changer, il avait prévenu sa mère de son arrivée, il devait partir. De nombreuses minutes précieuses s'envolèrent tandis qu'il s'attardait incapable de se décider à la quitter. Phyllis s'en tint à sa résolution, même si elle en avait le cœur serré. Ils se séparèrent enfin et il descendit la colline. Avant que se perdît complètement le bruit de ses pas, le désir la saisit de contempler au moins une dernière fois sa silhouette. Elle courut sans bruit à sa suite et jeta un ultime regard sur sa forme fuyante. Pendant un instant, son émoi fut si intense qu'elle faillit s'élancer afin d'unir son destin à celui de Matthäus, mais elle ne le put. Le courage qui, au moment décisif, avait abandonné Cléopâtre d'Égypte, on ne pouvait guère l'attendre de Phyllis Grove. Une forme sombre, pareille à la sienne, le rejoignit sur la grande route. C'était son ami Christophe. La vision disparut. Ils étaient partis en toute hâte, dans la direction de la ville et du port, distant de 4 milles. Habitée d'un sentiment voisin du désespoir, elle fit demi-tour et reprit lentement le chemin de la maison. La retraite sonna dans le camp, mais désormais pour elle, il n'y avait plus de camp. Mort, tout aussi mort que le camp des Assyriens après le passage de l'ange exterminateur. Sans bruit, elle pénétra dans la maison et alla se coucher sans croiser personne. Le chagrin la tint éveillée dans un premier temps, mais il finit par l'envelopper dans un lourd sommeil. Le lendemain matin, la rencontre avec son père eut lieu au pied de l'escalier.
« Monsieur Gould est ici !» lança-t-il avec un ton triomphant.
Humphrey, descendu à l'auberge, s'était déjà présenté pour demander à la voir. Il lui avait apporté, en présent, un superbe miroir encadré d'orfèvrerie repoussée que son père tenait à la main. Il avait promis de revenir dans moins d'une heure pour demander à Phyllis de faire un tour avec lui. En ce temps-là, à la campagne, les jolis miroirs étaient plus rares que de nos jours et celui que Phyllis avait devant les yeux emporta son admiration. Elle s'y mira. Et voyant comme elle avait les yeux battus, s'efforça de leur donner plus d'éclat. Elle se trouvait dans ce pitoyable état d'esprit qui conduit une femme à s'avancer en automate sur le sentier qui, à ses yeux, lui est assigné. Humphrey, à sa manière peu démonstrative, n'avait jamais cessé de s'en tenir à l'accord initial. Il lui revenait à elle d'en faire autant, sans mot dire de son manquement. Elle mit sa capote et sa pèlerine, et lorsqu'à l'heure dite il arriva, elle l'attendait à la porte. Chapitre 5. Phyllis le remercia de son beau présent. Mais au cours de leur promenade, Humphrey ne tarda pas à faire entièrement seul les frais de la conversation. Il lui parla des dernières tendances de la mode, sujet qu'elle accueillit de grand cœur dans la mesure où il excluait toute référence personnelle. Et par ses paroles modérées, il l'aida à calmer les tourments de son cœur et de son esprit. Si elle avait été moins accablée de tristesse, elle eût sans doute remarqué son embarras. Il finit par changer brusquement de sujet. « Je suis content que mon petit présent vous fasse plaisir, » dit-il. « À vrai dire, c'est pour me concilier vos bonnes grâces que je l'ai apporté, dans l'espoir que vous m'aiderez à sortir d'un grand embarras. » Ce célibataire renté, qu'à certains égards elle admirait, pouvait donc être pris avec une difficulté inconcevable aux yeux de Phyllis. Phyllis, mon secret, je vais vous le dire sur le champ. J'ai en effet un secret monstrueux à confier avant de pouvoir vous demander conseil. Eh bien, voilà, je suis mariée. Oui, j'ai épousé en cachette une jeune beauté, et si vous la connaissiez, ce qui, j'espère, arrivera, vous ne cesseriez de chanter ses louanges, mais elle ne correspond pas au choix que mon père aurait fait pour moi. La vie paternelle, vous savez aussi bien que moi ce qu'il en est.
J'ai donc gardé mon union secrète. Cela va faire un sacré tintamarre, c'est sûr, mais je crois que si vous m'aidiez, je pourrais en venir à bout. Si vous acceptiez seulement de me rendre ce service, comme j'aurais tout raconté à mon père, je veux dire, de déclarer que vous n'auriez jamais pu m'épouser, vous voyez, ou quelque chose de ce genre. Il n'y aurait rien de mieux sur ma vie pour aplanir la voie. J'ai tellement envie de réussir à lui faire accepter mon point de vue sans provoquer la moindre brouille. C'est à peine si Phyllis eut conscience de sa réponse ou de l'avis qu'elle lui donna sur cette situation inattendue, mais le soulagement que lui apporta la nouvelle fut considérable. Lui confier à son tour ses ennuis, voilà ce qu'aurait brûlé de faire son cœur blessé. Et si Humphrey avait été une femme, elle se serait épanchée sur l'instant. Mais elle appréhendait de lui confier son histoire. En outre, il y avait une bonne raison pour observer le silence. Laisser s'écouler assez de temps pour permettre à son amoureux et à son camarade de se mettre à l'abri du danger. Dès qu'elle se retrouva chez elle, elle se mit en quête d'un endroit solitaire et laissa filer le temps en demi-regret de ne pas s'être enfuie et en rêverie sur chacun de ses rendez-vous avec Matthäustina. Dans son pays natal, entouré de ses pèses, n'allait-il pas bien vite l'oublier et perdre jusqu'à la mémoire de son nom ? Elle sombra dans un tel état d'hébétude que, de plusieurs jours, elle ne quitta pas la maison. Survint alors une aube qui se leva dans la brume et le brouillard, laissant deviner derrière elle une aurore d'un gris verdâtre sur laquelle se découpaient le contour des tentes et les alignements de chevaux à l'anneau. La fumée qui provenait des feux de la cantine s'attardait lourdement dans le ciel. L'unique parcelle de sol anglais qui éveilla tant soit peu son intérêt était ce lieu au fond du jardin, où elle avait coutume d'escalader le mur pour retrouver Matthäus. Au mépris de cette chape de brume déplaisante, elle se risqua dehors et s'enfuit jusqu'à ce fameux endroit. Chaque brin d'herbe étaient lestés de petits globes liquides. Limaces et escargots s'étaient répandus sur les carrés potagers. La cohorte des bruits assourdis, caractéristiques du camp, parvenait à son oreille, en même temps que, dans la direction opposée, le trot des fermiers sur la route menant à la ville, car c'était jour de marché. Elle nota que ses visites répétées à cet endroit précis avait aplati l'herbe dans l'angle du mur et laissé des traces de terre sur les degrés de pierre qu'elle avait tant de fois gravis pour regarder par-dessus le faîte. Ayant rarement hanté les lieux avant le crépuscule, elle n'avait pas songé que ces traces pussent être visibles de jour. C'était peut-être leur présence qui avait révélé à son père ses rendez-vous. Tandis qu'elle s'attardait, tout à la mélancolie du souvenir, il lui sembla que les sons familiers qui provenaient des tentes changeaient de nature. Pour indifférente qu'elle fût devenue aux activités du camp, Phyllis gravit les marches et gagna sa position habituelle. Ce qu'elle aperçut d'abord la troubla et l'impressionna. Puis elle se raidit, les doigts accrochés au mur, les yeux exorbités, le visage comme pétrifié. Sur le grand pré qui s'étendait devant elle, tous les régiments du camp étaient alignés. Au centre, deux cercueils vides reposaient sur le sol. Les sons inaccoutumés qu'elle avait remarqués venaient d'un cortège en formation. En première ligne, s'avançait la musique des hussards d'York, jouant une marche funèbre, puis deux soldats de ce régiment dans une voiture de deuil, escortés de chaque côté et accompagnés par deux prêtres. Derrière, une foule de campagnards, attirés par l'événement. Le triste cortège passa au pas devant la ligne, retourna au centre et fit halte près des cercueils où, les deux condamnés eurent les yeux bandés et furent agenouillés chacun devant son cercueil. Quelques minutes de silence furent alors observées, le temps pour eux de prier. Un peloton d'exécution de 24 hommes se tenait prêt, mousqueton pointé. Le chef de corps, sabre au clair, fit une série de moulinets selon le rituel de l'exercice, et lorsqu'il en vint au coup fatal, le peloton fit feu immédiatement. Les deux victimes tombèrent, l'une face contre terre en travers de son cercueil, l'autre à la renverse. À l'instant même où résonna la salve, un cri strident s'éleva du mur du docteur Grove, et quelqu'un tomba à terre dans le jardin, mais personne parmi les spectateurs massés à l'extérieur n'y prit garde sur le moment. Les deux hussards exécutés n'étaient autres que Mataos Tina et son ami Christophe. Les soldats en faction disposèrent presque aussitôt les corps dans les cercueils, mais le colonel du régiment, un Anglais, survint à cheval et s'écria d'une voix sévère « Délogez-les ! Que ce soit un exemple pour les hommes !» Les cercueils furent relevés. Et les deux cadavres allemands tombèrent face contre terre. Tous les régiments opérèrent alors une conversion en groupe et défilèrent devant la scène au pas. Une fois l'inspection terminée, on remit en bière les deux cadavres et on les emporta. Pendant ce temps, le docteur Grove, attiré par le bruit de la salve, était précipitamment sorti dans son jardin où il vit sa malheureuse fille étendue immobile contre le mur. On la porta dans la maison, mais elle ne reprit ses esprits qu'au bout d'un long moment. Et pendant des semaines, on désespéra de sa raison. Les infortunés déserteurs des hussards d'York, on l'apprit par la suite, avaient, conformément à leur plan, coupé l'embarcation de ses amarres dans le port avoisinant. Ensuite, en compagnie de deux autres camarades exaspérés par les mauvais traitements dont les accablait leur colonel, ils avaient traversé la Manche sans encombre. Mais, sur une fausse interprétation de leur position, ils avaient mis le cap sur Jersey, prenant cette île pour la côte française. C'est là qu'on les épingla comme déserteurs et qu'ils furent livrés aux autorités. Au conseil de guerre, Mataos et Christophe demandèrent grâce pour les deux autres, disant que s'ils avaient été incités à partir, c'était entièrement sur leur instance. Il y eut donc commutation de peine et ils reçurent le châtiment du fouet. La peine capitale fut réservée aux meneurs. En visitant la station balnéaire dont la célébrité remonte au règne des Georges, un voyageur prêt à se rendre jusqu'au village voisin, au pied des collines, et à y consulter le registre des enterrements, y trouvera deux inscriptions ainsi formulées. Mat Tina, caporal, du régiment des Hussards d'York de Sa Majesté le Roi, et passé par les armes pour désertion, fut enterré le 30 juin 1801, à l'âge de 22 ans, né dans la ville de Sarrebruck, Allemagne. Christophe Bless, appartenant au régiment des Hussards d'York de Sa Majesté le Roi, passé par les armes pour désertion, fut enterré le 30 juin 1801 à l'âge de 22 ans. Né à Lothargen, Alsace. On a creusé leur tombe derrière la petite église près du mur. Aucun monument n'en signale l'emplacement, mais Phyllis me l'a montré. Tant qu'elle vécut, les tumulus restèrent par ses soins bien tenus. À présent, ils sont envahis d'orties et ont perdu pratiquement tout relief. Mais les anciens du village qui ont entendu parler de l'affaire par leurs parents gardent encore le souvenir de l'endroit où gisent les soldats. Phyllis repose à proximité.
What now, my love? Now Now that you've left me, how can I live through another day, watching my dreams turn into ashes and my hopes into bits of clay. Once I could see, once I could feel, now I'm numb, I've become unreal. I walk the night without a goal, stripped of my heart, my soul. Stop.